Bonjour à tous.
Bonjour Géraldine. Bonjour les chroniqueurs.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et bonjour les invités aussi, Géraldine. Il y a plein de monde autour de la table. Hein.
Tout à fait. Nous avons effectivement travaillé sur un thème qui nous tenait tous à cœur pour cette nouvelle émission. Il s'agit du handicap psychique dans la société.
Oula, sujet pas évident à aborder.
Non.
Et du coup, comment on a travaillé? Est-ce que tu peux expliquer comment on a travaillé avec toute l'équipe autour de ce sujet?
Oui, nous avons effectivement créé et œuvré pour deux fictions, inspirées de nos vies, de nos pathologies, coécrites ensemble par l'atelier, mises en scène et enregistrées par nos soins. Alors la première fiction relate la vie d'un étudiant qui décompense et la découverte de la pathologie psychique. La seconde, elle, parle d'une personne handicapée psychique et de ses difficultés dans le monde du travail. Pour nous aider à décrypter ces deux fictions, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Jean-Hervé Kroguenec et Michel Ledinf de l'UNAFAM. UNAFAM, Union Nationale de Familles Amies de Personnes Malades et ou Handicapées Psychiques. Union créée en 1963. Jean-Hervé et Michel, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être parmi nous. Pourriez-vous vous présenter à nous brièvement, s'il vous plaît?
Alors, l'UNAFAM a été créée en 1963 et a donc fêté ses 50 ans d'existence en 2013. L'UNAFAM est riche de ses 13 000 adhérents, 1 600 bénévoles. Elle a assuré l'année dernière, en 2015, donc 2 250 représentations. Alors localement, ici à l'antenne de Morlaix, notre premier souci, c'est d'accueillir les familles de proches en souffrance psychique. Et donc, nous essayons d'accueillir le plus chaleureusement possible ces familles qui sont dans le désarroi. Ensuite, on leur propose une écoute, la plus active possible. L'écoute est encore, peut se faire encore au travers des groupes de parole ou bien à travers des ateliers prospects qui sont organisés par des professionnels. Et puis, il existe aussi au niveau national un service d'écoute téléphonique. Voilà. Et puis, l'antenne de Morlaix organise aussi des cafés conviviaux à thème régulièrement, environ 3 cafés conviviaux par an. Voilà, en ce qui concerne l'accueil des familles. Ensuite, les bénévoles peuvent assurer les représentations des usagers au niveau de l'hôpital ou au niveau des hôpitaux, en fait.
D'accord.
Et donc on peut assurer, bon Michel, lui, il peut en parler, il est au conseil de surveillance de l'hôpital, à la CD, à la CRUC, au conseil local santé mentale.
Voilà. Merci. Merci Jean-Hervé. Pour le coup, Michel, vous intervenez au niveau départemental, c'est bien ça?
J'interviens au niveau départemental comme tous les autres bénévoles.
Oui.
J'ai assuré dans le passé des représentations. Comme Jean-Hervé, d'ailleurs, à la CDSP, la Commission départementale des soins psychiatriques, et j'ai participé à la création du GEM de Morlaix. Et actuellement, je suis représentant depuis peu au Conseil de surveillance de l'hôpital.
D'accord.
Voilà, et je participe, comme tous mes collègues, à l'accueil des familles. C'est quand même le cœur du métier. Ce sont les familles qui viennent prendre conseil, raconter leur histoire.
Voilà, donc beaucoup d'écoute aussi.
À l'antenne de Morlaix, comme dans toutes les autres antennes.
Ben, merci beaucoup. Avec nous aussi, pour nous aider à décrypter ces fictions, Brigitte Lebat, thérapeute familiale. Bonjour Brigitte.
Bonjour à
une
tous.
Une petite présentation ici, s'il vous
Alors,
plaît.
Alors, je suis infirmière de secteur psychiatrique, mais je suis aussi thérapeute familiale et de couple.
D'accord.
C'est que la thérapie familiale et la thérapie de couple au centre hospitalier de Morlaix.
Donc, je vous remercie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons passer par un petit moment de douceur avec Chinese Man, Get Up.
Ah, shit. Get it.
getting up, we getting up. Chinese man, but what's up? Get up to get down, 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 get up, get up, get up, get up, get down. Fresh coast, so active. What it is? Get up, get up to get down.
Get out and get your stock up. Find a group of chickens, sip and get the flock drunk. Contribute to the party, treat it like a potluck. You best believe I'm getting up, tomahawk dunk. We gotta suit up, then clock in and go work. Grinding on desire, striking till my toes hurt. It ain't a secret, ain't no need to be so covert. I keep it straight up, most of y'all ain't got no vert. Let's keep it real, we gotta move to keep the wheels rolling. Rocking till our heels swollen, walking till they feel broken. Stopping for no block or obstacle, just like a real Trojan. While y'all swerving faded like you drink banana peel potion. Get off the gravel and just quit the moaning. Cause I am never slipping, homie, y'all be tripping slowly. Why? Y'all the hoarder, steady lying in the clutter. It's easy to look up when your mind's in the gutter.
When I admit it, mind sending, I show my talking. I really, she knowin' we high, we potent. We fly so short and ride shot and he's open. She knowin' that we fly across seas, oceans, overseas, putting it in a preconceived notions. All in East Oakland, until my vocal cords crack. Goodness gracious, bar the rubber boys back. Get up, like Cialis in your stuff. Baby, I'm up all night, no Viagra in my cup. Spoil me in deep, cause I desire finer stuff. Knees and oil and grease, trying to find a designer stuff. They quiet like a mom, so my mind's so focused. I'm on my grindstone, in different time zones, notice. Liquor my elixir, I'm where the chicks are. My loons got to their hips, they trying to get up.
Alors, afin d'aborder le sujet du handicap psychique dans la société, je vous invite d'ores et déjà à l'écoute de la première fiction.
Je m'en souviens très clairement. Tout a débuté lors de mes 14 ans, lorsque mon père s'est suicidé. Je n'ai rien compris. Il a juste laissé quatre mots. Je suis à bout. S'en est suivi une période où j'avais envie de ne voir personne. Je me sentais triste, angoissé, et j'avais honte. Comment dire ça aux copains, à ma mère? Je me sentais de plus en plus mal. Et puis un jour, j'ai attrapé une jaunisse. Enfin, une réponse à ma douleur et à un mal qui se voit. Du coup, tout le monde est revenu vers moi. Je me sentais à nouveau considéré. Mes idées se sont éclaircies. Mon deuil pouvait enfin prendre fin après une année passée à m'enfoncer. Ensuite, tout s'est bien passé pendant 5 ans. J'étais un vrai bout en train. J'ai obtenu mon bac, puis j'ai commencé un BTS. Là, c'était la grande vie, loin des parents et des obligations, apéros, sorties, excès en tout genre. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Je ne dormais plus, j'avais des crises d'angoisse, et je n'arrivais plus à me concentrer sur mes cours. Je ne trouvais plus mes mots, je sentais que je perdais pied. Je ne sortais plus de ma chambre et ne mangeais plus rien depuis des jours. Je ne répondais pas non plus au téléphone. Puis un jour, ma mère a débarqué.
Marc, Marc, tu es là? Qu'est-ce que tu fais dans le noir? Ouvre la fenêtre de grâce, réponds-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te reconnais pas, mais qu'est-ce qui te prend? Mais réponds, qu'est-ce qu'il y a?
Laissez-moi tranquille, je n'ai pas envie de vous parler, vous m'avez réveillé. Et d'abord, qu'est-ce que vous faites là? Vous m'avez suivi?
Mais enfin, Marc, t'as vu comment tu me parles? C'est moi, ta mère.
Je ne vous connais pas, vous n'avez rien à faire ici. Qu'est-ce que vous regardez comme ça? Sortez de chez moi.
Mais lâche-moi, Marc, lâche-moi. Oh mon Dieu, Marc, que t'est-il arrivé? Que se passe-t-il? Je ne peux pas te laisser comme ça, il faut que j'appelle les secours.
Les minutes, les heures, les jours ont passé. Des flashs me reviennent. Je commence à me réveiller et à comprendre que je n'ai pas rêvé. Ces lueurs bleues, ce climat glacial, ces portes qui s'ouvrent et se ferment en permanence, réalité ou non, il m'a fallu énormément de temps pour comprendre que j'ai basculé. Depuis combien de temps je suis étendu sur ce lit, à ne même pas pouvoir bouger, ne plus pouvoir m'exprimer. Un mois que je suis en psychiatrie, et seulement quelques jours que j'en ai pris conscience. J'ai l'impression de devoir réapprendre à vivre. Je me sens complètement désorganisé. Même les gestes les plus simples de la vie me paraissent insurmontables. Mon quotidien, un lever laborieux, prise de médicaments, toilettes, post-club, repas, télé, entretiens médicaux.
Bonjour Marc, asseyez-vous et mettez-vous à l'aise. Comment vous sentez-vous? Est-ce que vous savez pour quelle raison vous êtes en psychiatrie?
Non, je ne sais pas. Vous allez me laisser sortir rapidement?
Vous êtes actuellement en hospitalisation à la demande d'un tiers. Votre entourage est inquiet pour vous.
Schizophrénie. Il aura fallu plusieurs entretiens pour que le couperet tombe et que ce mot soit prononcé. D'un seul coup, on vient de me coller une étiquette. Fou! Soudain, un son familier au dehors, annonciateur d'une visite. C'est la première fois que je vais revoir ma mère depuis ce fameux jour de janvier. Plus qu'une visite, je viens d'obtenir une autorisation de sortir pour le week-end. Pour la première fois depuis longtemps, je vais être confronté au monde extérieur. Entre excitation et appréhension, je redoute ce moment. Je vais devoir m'expliquer, raconter à ma famille et à mes amis. Vont-ils encore m'accepter? D'ailleurs, seront-ils toujours là?
Allô Marc, tu viens avec nous ce soir? Tous les potes seront là, il y a vraiment une super soirée d'organiser, tu vas voir, ça va être chouette.
Non, je crois pas. Tu sais, je viens sortir de l'hôpital et je me sens encore fragile. Et en plus, j'ai peur d'être jugé qu'on se moque de moi.
Mais non, t'inquiète, on n'est pas comme ça. Et puis tu vas pas rester dans ton trou à te morfondre. Tu vas voir, ça te fera du bien, il y aura de l'alcool, tu te sentiras plus à l'aise.
Ben justement, le psy m'a dit que je devais plus boire à cause du traitement. Et en plus, je crois que je suis super fatigué.
Allez, viens, je te promets que ça va bien se passer. Je passe te chercher dans une heure. Prépare-toi.
C'était qui au téléphone?
Un copain.
Ah? Et qu'est-ce que vous êtes dit?
Il vient me chercher, on va à une soirée, on se retrouve avec des amis.
Tu peux pas faire ça. C'est trop tôt, trop dangereux. Tu es encore hospitalisé. Tu n'es qu'en permission et sous ma responsabilité.
Ok, tu as peut-être raison. Je vais rester à la maison.
Brigitte, Sylvie, Michel, vous venez de découvrir la fiction. Quel est votre ressenti? Comment vous réagissez alors que vous venez de la découvrir, de l'écouter pour la première fois, cette fiction?
Alors, moi, ce qui m'a interpellée, c'est surtout la fin de cette fiction, l'intervention de la mère à la fin, par rapport au désir de son fils de sortir. En thérapie familiale, en fait, on s'interroge d'abord sur la fonction du symptôme de la personne dans le système familial. Donc, on peut se demander déjà pourquoi ce patient qui est désigné peut porter un symptôme qui est plus large et qui concerne toute la famille. Donc déjà, il y a le suicide du père qui est pas anodin. Et ensuite, la relation à la mère qui est un peu intrusive pour ma part. Et voilà, donc je pense que c'est des choses qu'on pourrait travailler en thérapie familiale avec le fils et la mère, en l'occurrence, et puis peut-être un beau-père, si beau-père il y a, ou frère et sœur. Voilà, c'est comme ça que j'aborderai, moi, le sujet.
Michel, de votre côté?
Eh bien, c'était intéressant à plus d'un titre. D'abord, l'apparition de la maladie, le fait que la mère a pris ses responsabilités. Elle a demandé une hospitalisation à la demande d'un tiers, ce qui n'est pas évident pour une famille. Moi, je comprends, j'ai peut-être des progrès à faire de ce côté-là, je comprends tout à fait la réaction de la mère qui essaie d'éviter que son fils ne prenne des risques excessifs. On a peut-être, nous, les parents, toujours beaucoup de difficultés à avoir l'attitude juste, et puis il faut peut-être pas espérer l'avoir, mais on a des progrès à faire certainement. Et je comprends tout à fait, je trouve que cette fiction est très réaliste et très intéressante.
Jean-Hervé, votre avis sur cette écoute?
Oui, moi c'est plutôt sur la vie à l'hôpital, oui. C'est ça qui m'interpelle, je voudrais que le séjour à l'hôpital soit le plus chaleureux possible, et je pense que les soignants font le nécessaire. Mais j'imagine que c'est compliqué pour eux, que c'est difficile. Et ensuite, eh bien, la sortie d'hôpital, quoi. Préparer la sortie de l'hôpital. Voilà les deux sujets qui m'interpellent, en fait. Et c'est un gros souci aussi de l'UNAFAM de savoir comment préparer la sortie de l'hôpital. Est-ce que le malade rentre à domicile, son propre domicile, est-ce qu'il vit avec ses parents? Ici, il vit avec sa maman, donc... voilà, ce sont ces conditions-là. Et puis, comment favoriser les échanges entre la famille et les soignants, quoi, pour qu'il y ait le maximum d'échanges. Ça, c'est compliqué parfois, parce que les patients, parfois, sont inhibés, ne veulent pas se livrer. Et donc, le psychiatre, faute d'informations, ne peut pas tout comprendre la situation, quoi.
Est-ce que vous intervenez, est-ce que vous intervenez directement dans le service où est hospitalisé, par exemple, le fils d'une adhérente de l'UNAFAM? Est-ce que vous intervenez au niveau du psychiatre ou du corps médical qui est dans le service, les infirmières qui forment le service, ou vous intervenez auprès du psychiatre de l'adhérent?
On est souvent confronté à l'UNAFAM au problème que beaucoup de familles connaissent, c'est-à-dire la difficulté de dialogue avec la psychiatrie. La difficulté, elle est normale parce que pour les médecins, j'ai eu l'occasion de poser la question souvent, justement au niveau de la CDSP, à des médecins psychiatres qui faisaient partie également de la commission. La difficulté, c'est le secret médical. Le médecin ne connaît théoriquement que son patient, où il veut bien dialoguer avec les proches du patient, à condition que celui-ci l'ait accepté, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc il y a une double difficulté, les familles sont inquiètes, ne savent pas, n'ont pas toujours les informations pour bien réagir vis-à-vis de la pathologie de leurs proches. Et le psychiatre lui-même n'a pas forcément tous les éléments, parce qu'une partie de la connaissance de la pathologie ou des origines de la pathologie, ce sont quand même souvent les proches qui peuvent le donner. Alors voilà, il y a des méthodes. Enfin, nous, on peut expliquer ça aux familles, on n'a pas la réponse, mais il y a souvent quand même, vous allez nous dire si c'est la bonne formule, on propose aux familles de prendre contact avec les infirmières du service, avec le cadre infirmier, et éventuellement d'essayer de contacter le psychiatre. Mais voilà, on se heurte à ce type de difficultés. Et effectivement, il y a certainement une source d'amélioration, c'est la préparation de la sortie du malade psychique de l'hôpital.
Avec des permissions, des permissions, des sorties à la journée.
Il y a aussi, tout bêtement, lorsqu'il s'agit d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, il devrait quand même y avoir une autre façon de procéder que d'envoyer une lettre à la personne qui a demandé l'hospitalisation à la demande d'un tiers. Cette personne qui a pris la responsabilité, pas facile à prendre, mais dans l'intérêt de son proche de demander cette SDT, devrait pouvoir être prévenu avant la sortie du malade. Et j'ai des cas concrets qui me viennent à l'esprit, c'est des personnes qui se sont suicidées à la sortie de l'hôpital, parce que elles étaient dans un état suicidaire, et la moindre des choses aurait été que des précautions soient prises pour que... le risque suicidaire soit quand même limité.
Donc on entend bien, Michel, que vous qui êtes investi dans ce domaine-là depuis plusieurs années, on comprend bien qu'il y a eu des améliorations, encore beaucoup, beaucoup de choses à améliorer, hein, si on vous entend bien, c'est ça?
Oui, je pense que tout n'est pas parfait, mais je suis aussi persuadé que le personnel soignant et l'institution font ce qu'ils peuvent, mais il y a des améliorations à apporter, de mon point de vue.
Nous, je voulais parler quand même de tout ce qui est du dispositif du secteur qui intervient quand même pour préparer la sortie. Nous, en tant qu'infirmières, nous allons rencontrer le malade dans le service. On va préparer quand même la suite et être là après, lorsqu'il sera sorti, pour le soutenir, pour le voir en entretien, pour lui proposer aussi parfois effectivement des ateliers comme celui qu'on... pour lequel on intervient aujourd'hui, un atelier radio, il y a un tas de dispositifs, hein, les hospitalisations de jour, il y a quand même des dispositifs qui sont en place pour aider à la sortie et faire en sorte que la personne se sente...
Ça ne s'arrête pas à la sortie,
ça ne s'arrête quand même pas du tout à la sortie.
Il y a un suivi derrière, bien évidemment. Non.
Peut-être ce qu'il faut peut-être dire, c'est que tout ça, nous, on le connaît de l'intérieur, mais est-ce que finalement, c'est assez diffusé pour que les patients et leurs familles soient aussi informés de tout ce dispositif qui existe ? C'est peut-être là aussi où il faudrait peut-être être un peu plus... à donner plus d'informations, peut-être, sur l'après, sur des hospitalisations qui, je pense que vous le constatez aussi, qui sont de plus en plus courtes, et pour souvent un mal qui est profond et qui est là depuis sûrement un certain temps. Les 14 ans, pour, en tout cas, on peut imaginer pour le jeune Marc, on peut situer un mal-être qui a démarré déjà à l'adolescence, quoi.
Mais c'est ce qu'on essaie de faire auprès des familles, c'est justement leur signaler que l'institution psychiatrique ne se limite pas à l'hospitalisation, que de plus en plus, et en tenant compte des grands principes, la psychiatrie doit devenir la règle en dehors des murs, étant entendu que, compte tenu de la complexité de la pathologie, il y a des hauts et des bas, et que des périodes d'hospitalisation peuvent être nécessaires.
Le problème du suicide n'arrête-t-il pas de l'alcoolisme, du tabagisme accentué, dirons-nous, et familial, serait une maladie familiale de génération en génération?
Il y a toujours des causes multiples, hein, au suicide. Il y a des causes. Il peut y avoir aussi de génération en génération, ça se voit, des suicides comme ça, générationnels, on va dire. Mais il y a toujours des causes multiples et c'est difficile de trancher sur une raison, quoi, de façon très catégorique. Le problème du suicide, c'est que les gens partent en laissant toujours beaucoup d'interrogations à ceux qui restent, et de culpabilité aussi, mais beaucoup d'interrogations.
Oui, ça peut venir aussi d'échecs du travail, d'échecs dans le travail, ou bien des choses comme ça aussi, de divorce, ou bien de choses comme
de
ça.
De plein, quoi, de choses, une fragilité personnelle aussi, et des gens qui vont dans la même situation, deux personnes ne vont pas réagir de la même façon, hein. Certaines vont pouvoir demander de l'aide, d'autres pas, ou...
Justement, j'avais une question pour Jean-Hervé et Michel. Est-ce que, au niveau des familles que vous rencontrez, est-ce que justement vous avez l'impression que les familles qui demandent de l'aide sont des familles de jeunes adolescents, enfin la moyenne d'âge à peu près des familles, ou en tout cas
Non, ce sont essentiellement des parents de jeunes adultes.
Plutôt des jeunes adultes.
Oui.
Ça bouge pas trop. Enfin, je veux dire, l'époque actuelle fait pas que l'appel à l'aide et se fait sur des personnes plus jeunes.
Non, pas pour le moment. Non. Pas au niveau les parents de jeunes scolaires ne viennent pas à l'UNAFAM. C'est compliqué de franchir le pas, de venir à l'UNAFAM.
Il y a des services de pédopsychiatrie au sein du centre hospitalier de Morlaix.
Oui, c'est ça. C'est peut-être là qu'elle trouve. Le réconfort, qu'elle trouve la chaleur qu'il faut et l'écoute nécessaire, donc ils ne franchissent pas la porte de l'UNAFAM. Mais pour entrer à l'UNAFAM, vous savez, on réfléchit à deux fois, on se dit mais où on va, quoi. Voilà. Je voulais juste revenir sur la fiction, juste à propos de la famille. Donc c'est Brigitte qui disait que la maman a été intrusive, je suis tout à fait d'accord, mais je crois que la famille, pour moi, reste quand même une solution, une des solutions, hein, au mal-être et à la souffrance du malade psychique.
Brigitte, une intervention ?
Oui, je voulais répondre à Bernard par rapport à ce que vous disiez sur le fait que la pédopsychiatrie, en pédopsychiatrie, les adolescents qui faisaient des tentatives de suicide, les parents ne passaient pas la porte de l'UNAFAM, parce que je pense que enfin, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, que les pédopsychiatres, justement, après ce genre de passage à l'acte, envoient en thérapie familiale pour que tout le monde puisse parler un peu de son ressenti, de comment ils ont vécu cet événement-là, et que c'est peut-être pour ça que ça ne passe pas à votre porte, en fait. Hein. Enfin, ça se fait un petit peu sur Morlaix, ça se fait beaucoup ailleurs, et j'aimerais que ça se fasse beaucoup plus à l'hôpital de Morlaix, parce que ce n'est pas encore ça, je trouve.
Donc je voulais préciser aussi que la sortie d'une personne en détresse psychique peut aussi bien se passer s'il y a un dialogue qui s'instaure ou une alliance qui s'instaure avec les soignants, le médecin, la famille et qu'il y a pas mal de choses mises en place comme la thérapie familiale aussi, une écoute. Mais c'est vrai que des fois ça peut prendre du temps, mais par le biais de médiation aussi c'est important des fois de repréciser les choses et peut-être que dans ces cas-là, on peut proposer un bien-être à la personne qui sort.
Ce qui est important de dire, c'est que si la personne sort et que rien n'a changé à l'extérieur dans son environnement, je ne parle pas d'environnement, enfin je parle de son environnement familial ou relationnel, il y a forcément un moment où on va se retrouver à nouveau dans le même cas de figure et où la personne va être en souffrance et que c'est le but de la thérapie familiale, c'est justement ça, c'est d'introduire un peu du changement dans le fonctionnement des relations familiales quand la pathologie ou le symptôme du patient est lié à un dysfonctionnement justement de ces relations. Et donc, c'est important justement de pouvoir proposer ça aux patients et à sa famille, et c'est pas uniquement les parents, ça peut être les frères et sœurs, ça peut être les grands-parents, enfin, en thérapie familiale, on travaille beaucoup sur les sous-systèmes familiaux qu'on appelle, c'est-à-dire la fratrie, les grands-parents, qu'on peut inviter, et qui peuvent dire des choses, et que toute la famille peut découvrir des informations que jusqu'à présent, ils n'avaient pas, quoi.
Merci Brigitte.
Géraldine, il va se passer quoi pour la suite de l'émission, dis-moi ?
Un petit peu de musique avec Julien Doré, Le Lac, avant de passer à la fiction numéro 2.
Thank you. sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. T'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent.
Vous êtes bien l'écoute de Micro Standard sur Radio Nord-Bretagne. Nous allons maintenant écouter la deuxième fiction que nous vous avons préparée, qui replace en un sens la personne handicapée psychique dans le monde du travail. Bonne écoute.
Bon, Sophie, tu sais pourquoi je t'ai convoquée ?
Non, je vois pas.
Écoute, ça fait plusieurs fois que tu es en arrêt de maladie. J'ai besoin de gens fiables. Si tu conduis comme ça, tu vas tout droit au licenciement. Qu'est-ce que tu peux en dire ?
C'est pas ma faute. J'ai des angoisses au boulot.
Alors, adresse-toi au médecin du travail. C'est pas mon problème. Moi, j'ai besoin que mon entreprise tourne avec des gens efficaces.
Ok, mais on sait très bien qu'il y a un problème d'ambiance dans l'équipe. On me réserve toujours les tâches de merde, et ça, c'est pas normal. Vous me demandez d'assurer mon travail jusqu'à 22h, alors que vous savez très bien que j'ai des horaires aménagés. Vous êtes tout le temps sur mon dos.
Écoute, on va s'arrêter là.
Mais quand même, vous saviez en m'embauchant que j'avais un statut de travailleur handicapé.
Et alors ?
Alors vous devriez être compréhensif. Si je ne viens pas au boulot, c'est que je peux pas. Et malgré mes arrêts de travail, vous n'avez rien à me reprocher. Ce que je le fais bien. En plus, vous touchez des aides de l'État.
Ben, sache que je n'ai pas d'autre poste à te proposer. Soit tu es au boulot, soit tu te fais licencier.
C'est vraiment dégueulasse.
Quelques mois plus tard, nous retrouvons Sophie dans son nouvel emploi. Elle est animatrice radio sur Radio Réglisse. Enfin l'emploi dont elle rêvait.
Salut Sophie, je voulais te dire que nous sommes super contents de ton travail. Nous avons gagné 2 points d'audience depuis ton arrivée à la station. Alors on a quelque chose à te proposer.
C'est vrai ? Trop cool !
Tu vas voir, tu vas t'éclater. Tu vas avoir ta propre émission tous les lundis de 18 à 20 heures. Alors à toi de nous proposer un truc qui va dépoter.
Yes ! Je m'y mets tout de suite. En plus, c'est un super horaire pour moi. Pas besoin de me lever tôt.
Vous êtes bien en direct sur Radio Réglisse. Sophie au micro pour l'émission.
Là, on est sur un autre sujet, on est sur le sujet du travail. Voilà, comme question comme tout à l'heure, première écoute, vous en pensez quoi ? Est-ce que ça vous semble réel ?
Oui, pour l'avoir vécu. Je crois qu'il y a, une notion dans... D'ailleurs, la loi, la nouvelle loi sur le handicap le dit très bien, parce que dans la maladie mentale, il spécifie la maladie psychique, typiquement psychique. Et dans la maladie psychique, il y a une notion de temps. Temps d'attente, le temps des formations, des pré-formations. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on on va commencer le boulot. On ne sait pas à l'avance. Donc les stages, les formations, les pré-formations, je l'ai évoqué dans l'atelier théâtre il y a des années. Ouais, il faut de la patience. Et puis, si ça ne marche pas, on a eu l'exemple du GEM il y a une dizaine d'années, hein, qui a fêté ses 10 ans, il y a quelques semaines. On pourrait en parler du GEM, du groupe d'entraide mutuelle de Saint-Paul, situé juste à côté de notre studio, ici, rue de Brest, près du théâtre. Bien, il y a des solutions. Il y a toujours des solutions.
Existe-t-il des structures qui aident au travail des personnes handicapées psychiques, au même titre que les ESAT ou autres ? Est-ce qu'il en existe ?
Oui, il y a des structures bien spécifiques, des structures de travail, du travail adapté. Handicap psychique, je crois que du côté de Plabennec, des usines, du travail en blanchisserie, par exemple. Mais on connaît ici autour de Morlaix, par le centre des réadaptations sociales de Rosascourt, notamment à Plougonvin, On voit des personnes, mais ce sont des délais. On dit des délais d'attente, mais les délais d'attente font partie du handicap psychique. Hein. On ne sait pas dans combien de temps telle personne pourra rentrer et signer dans une structure de travail pour handicapés. Voilà, c'est la notion de temps, de mois, quelquefois d'années. Hein.
Oui, je crois que là, il faut savoir distinguer le travail en milieu ordinaire. Je pense que vous avez fait allusion au travail en milieu ordinaire où la jeune dame était angoissée. Et je pense qu'il faut tenir compte des angoisses qui deviennent paralysantes. Et, voilà. Et puis, ensuite, il y a aussi le travail en milieu protégé, donc Bernard a fait allusion au travail en ESAT, au travail dans les genêts d'or, dans les blanchisseries, où ce travail est encadré. Et je pense que les personnes, même en milieu ordinaire, il faudrait faire des adaptations, mais qu'il y ait un encadrement et beaucoup de tolérance. Un emploi du temps peut-être adapté. Mais j'imagine mal une personne malade psychique avoir un temps plein. C'est trop dur pour elle. Donc il faut, en milieu ordinaire, me semble-t-il, avoir un travail absolument pas aussi protégé, mais avec des personnes qui suivent. Et d'ailleurs, ça va faire un sujet en 2017, à travers l'ACISM, hein, c'est la Semaine internationale de la santé mentale, où le titre c'est « Santé mentale et emploi ».
Et pour les personnes qui sont ici dans cette salle, qui ont pu travailler ou qui ont eu la chance de travailler ou qui n'ont pas réussi à travailler, est-ce que c'est important le travail justement dans la maladie ?
C'est sûr que ça favorise à l'inclusion sociale, hein, son travail, on porte sa maladie à 100%. Enfin,
non, Géraldine, on peut, ce que je disais tout à l'heure, à travers le tissu associatif, faire des choses sans travailler. Personnellement, j'ai créé du lien social. Ça m'a permis d'avoir une vie affective. Comme disait mon psychiatre, Monsieur Levent, quand t'es né, on t'a pas demandé de bosser.
Moi, je pense qu'il est important de travailler par rapport à ma religion. Je suis catholique, donc ce que dit le pape, c'est qu'il est important de travailler. Donc j'écoute, quoi. Mais j'ai beaucoup d'occupations à la maison et de diverses associations. Donc je m'occupe bien quand même.
Le rôle du travail est absolument, c'est vrai, important. Ça redonne de la dignité, comme on dit. Mais je crois que les activités que l'on propose à la sortie de l'hôpital, par exemple, toutes les activités, pour moi, c'est un peu dans ce cadre-là aussi, c'est une sorte de travail. Quand vous faites de l'équithérapie, vous faites de l'ergothérapie, une marche ou autre, ce sont des activités et qui redonnent de la dignité à la personne. Et donc, le travail n'est pas forcément obligatoire. À la retraite, eh bien, je suis bénévole. Est-ce que je travaille ? Est-ce que c'est considéré comme un travail ou une activité ou pas ? Je pense que c'est, oui, une activité qui me permet un certain épanouissement. Et je pense que quand une personne fait de l'équithérapie ou de l'ergothérapie, eh bien, il y a un épanouissement. Et cet épanouissement apporte un bien-être chez elle. Et ça crée de la relation. Bernard parlait de beaucoup de relations tout à l'heure. Eh bien, il y a une relation avec les formateurs. Ici, c'est Karine et Catel, par exemple, qui connaissent, mais je ne vais pas citer mon proche, hein, mais qui apprécie beaucoup, qui vous a apprécié. Il y a aussi, il travaille beaucoup avec Isabelle. Ça a été extraordinaire. Voilà, il y a des relations qui se créent. Et ça crée... voilà, de la dignité, une certaine reconnaissance. La personne handicapée a besoin aussi d'être reconnue. Et je pense que le handicap psychique, il est reconnu, mais peut-être méconnu.
Alors c'est vrai que l'atelier radio, on en a souvent entendu parler aussi de ce que ça procurait justement comme investissement, comme reconnaissance. Enfin, je sais pas, Géraldine,
d'estime de soi, c'est vrai que ça, comme disait Michel, pardon Jean-Hervé, ça, l'activité radio a un rôle thérapeutique. Et c'est vrai qu'on retrouve une certaine dignité de soi. Pour le coup, on se retrouve en groupe et c'est assimilable à une activité de travail, hein, effectivement.
Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient de se dire.
Ce qui compte, c'est le lien social, la possibilité d'être avec d'autres, d'effectuer quelque chose que l'on perçoit comme utile et comme agréable. Si on parle de travail proprement dit, c'est compliqué. Je ne veux pas être défaitiste, mais c'est compliqué parce que, d'abord, le temps complet, c'est souvent une utopie. Ça ne l'est pas peut-être pour une certaine période. Mais ce qui est difficile dans le cas des troubles psychiques, me semble-t-il, c'est le fait qu'il n'y a pas de régularité dans l'état de la personne. Donc elle pourra fournir un effort important à certaines périodes et à d'autres périodes être presque incapable de travailler. Alors dans une société où on connaît quand même le chômage de masse, c'est difficile de trouver la bonne formule. Il faudrait sans doute des formules qui sont plus compliquées à mettre en place que ce qui existe actuellement dans les ESAT, mais le contexte n'est pas formidablement favorable, si vous voulez. Et je pense effectivement que l'activité au sein d'associations, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. On n'a peut-être pas encore trouvé la bonne formule pour intégrer dans du travail proprement dit toute la majorité des personnes qui connaissent des troubles psychiques.
Juste, j'ai le souvenir d'un patient que je suivais à domicile et c'est arrivé qu'on parle de ce qu'il faisait dans la vie et il disait qu'il travaillait comme peintre à l'hôpital et en fait il venait à l'atelier d'Isabelle et il faisait de la peinture en atelier deux fois par semaine et c'était devenu quelque part, ouais, on peut dire qu'il le revendiquait comme une profession.
Oui. Je pense effectivement que même si c'est très limité dans le temps, c'est très important que quelqu'un puisse déclarer qu'il a une activité professionnelle ou quasi professionnelle. Même si c'était une demi-journée par semaine, ce serait déjà ça.
C'est souvent une question qui fait mal, on dit bien une question qui tue. C'est lorsqu'il y a un public qui vient à la maison, lorsqu'il y a des gens que vous n'avez pas rencontrés depuis longtemps et qui vous disent « Alors, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» Vraiment, c'est très, très difficile. Moi, je me suis vu me ramasser, me mettre à la limite. J'aurais eu envie d'aller me mettre dans un trou de souris pour ne pas avoir à répondre à cette question. Et ça, le public a besoin d'être éduqué pour ne pas trop stigmatiser.
C'est une question de temps, certainement, oui. Ouais. Les esprits doivent évoluer. On va attendre un petit peu, certainement.
C'est une question de moyens.
Oui, et puis la société se définit principalement par le travail. Enfin.
Et toi, Gilles, je pense que tu as beaucoup travaillé quand même dans ton existence. Hein. Tu as un
oui, j'ai beaucoup travaillé. On ne croira pas, mais j'ai commencé avant l'âge légal. Je suis fils de carrossier à Brest. Et j'ai commencé à travailler à 10 ans. Ma sœur avait 12 ans. Le jeudi et le samedi après-midi, je ponçais les compteurs, je ponçais les voitures. Je les faisais à l'huissier quand les clients ne payaient pas. Donc,
est-ce que ce travail t'a aidé dans la maladie?
Bien sûr, j'ai connu beaucoup d'exigences. Mon père avait une affaire et il y avait des employés, jusqu'à 9 employés. Et je devais être l'exemple pour la famille, pour mes frères et sœurs, pour les ouvriers. J'étais chargé du mouchardage des ouvriers, chose que j'ai jamais fait, qui tentaient de voler la peinture. J'ai eu mon CAP à 17 ans. J'ai eu une bonne note. Et le travail, avec le recul maintenant, je ne regrette pas.
Merci pour ces échanges enrichissants. Passons maintenant à Claudio Capeo pour Un homme debout.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Si je m'endors, me réveillerai-vous?
froid dehors, le restant des jours. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Merci bien pour la pièce.
En ce moment c'est dur,
je confesse.
Enfin je vais m'en sortir,
je l'atteste.
Toujours avoir un toit,
une adresse.
Un site de toi à moi,
c'est dur, je stresse.
Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire,
à part l'ivresse comme futur.
Que tes promesses en veux-tu.
Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche.
Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche.
Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie à vendre. Si je m'endorme, réveillez-vous. Il fait si froid dehors, le restant est doux. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous.
Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte.
Si je m'endorme, réveillez-vous. Il fait si froid dehors, le restant est vous. Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Si je m'endorme, réveillez-vous. Il fait si froid dehors, le restant est vous. Il fut un temps où j'étais.
Une dernière réflexion sur le monde du travail.
Oui, c'est-à-dire par rapport à la fiction. Je voudrais juste rajouter qu'une personne qui se trouve au travail et qui est angoissée sera rapidement mise en invalidité, après des congés maladie, bien entendu, par le chef d'entreprise. Et ce chef d'entreprise voudra, à long terme, excusez-moi le mot, mais la mettre de côté, quoi.
Oui, plus ou moins long terme. Pour le coup, pour l'invalidité, c'est vrai qu'il faut avoir travaillé au moins 10 ans dans sa vie. Et le calcul de l'invalidité est assez simple. Donc la sécurité sociale prend les 10 meilleures années, coupe la poire en deux. Donc pour vous dire que c'est vrai que pension d'invalidité, c'est souvent difficile pour des gens malades comme nous. Déjà travailler 10 ans, je dirais que c'est un exploit quand on est assez gravement atteint. Voilà, tout ça reste bien compliqué. Merci à nos invités, Brigitte Lebad, Jean-Hervé Krodgenek, ainsi qu'à Michel Ledenf.
Merci à vous.
Un petit rappel, vous pourrez écouter notre émission le premier samedi de ce mois sur RNB à 19h15, 100.5 ou www.stand-arts.org, wstandard.org. À bientôt et bonne soirée.
C'est le premier samedi.